La littérature et le monde du livre. Chaque semaine, l'équipe d'Épilogue vous attend avec des entrevues, critiques et actualités sur la scène littéraire d'ici et d'ailleurs. Épilogue, dimanche midi, rediffusion mercredi 10h sur les ondes de CKIA FM.
Bonjour, ici Julianne Perrault. Voici votre bulletin du vendredi 17 avril 2026. Des militantes et militants de la CSN ont pris part hier à une manifestation au complexe G pour dénoncer le bilan lamentable du gouvernement caquiste en enseignement supérieur et pour exiger un rehaussement du financement public. La CSN tenait cette action dans la région pour exiger, de la part du gouvernement caquiste et des principaux partis politiques, des engagements qui favorisent l'égalité des chances en enseignement supérieur. Les travailleuses et travailleurs du réseau de l'enseignement supérieur sont aux premières loges pour constater l'effet des coupes budgétaires et des mauvaises décisions gouvernementales sur les étudiantes et étudiants. Les membres de l'Association professionnelle des ingénieurs du gouvernement du Québec ont voté à plus de 87 % en faveur d'un mandat de grève générale illimité. Les ingénieurs du gouvernement du Québec sont sans contrat de travail depuis 2023. La négociation en cours avec le secrétariat du Conseil du Trésor est dans une impasse depuis plus d'un an, alors que les recours de négociation de mauvaise foi envers le gouvernement s'accumulent. Le syndicat affirme avoir pourtant déposé des demandes monétaires raisonnables et légitime, outre que de réclamer un encadrement négocié du télétravail, de même que des espaces de bureau adéquats. Il ne sera plus possible à Québec d'obtenir un permis temporaire pour le traitement des espaces verts par pesticides. Rappelons que la Ville a adopté en 2024 un cadre réglementaire afin de favoriser l'utilisation de biopesticides. Elle a ainsi interdit la vente au détail de tout produit contenant du glyphosate et l'application des pesticides les plus nocifs à l'extérieur, à l'exception de certains cas particuliers, comme pour les fourmis charpentières et les nids de guêpe. Les modifications réglementaires officialisées aujourd'hui visent à confirmer la fin prévue des permis temporaires pour la gestion des espaces verts, qui représentent 99 % des applications. Les permis temporaires seront dorénavant uniquement autorisés dans les cas de gestion parasitaire et pour le traitement des haies, arbustes et arbres dans certains cas. En collaboration avec les Amis de la Terre, Attaque Québec diffusera ce soir son spectacle d'humour Prix de Lobby 2026 dans le cadre de sa campagne de lobbyisme. Se déroulant au Club Soda à Montréal, ce spectacle met en vedette Colin Boudria, Catherine Étier, Vanessa Destiné, Yasmina Léveillé, Christian Vanasse et des invités surprises. La diffusion à Québec a lieu à compter de 19h au 870 avenue de Salaberry, local 210. L'entrée est gratuite. Demain, de 10h à 15h, la population est invitée à célébrer le retour du printemps à travers les saveurs de l'érable et les traditions culinaires à la promenade de la rue Racine dans l'arrondissement de la Haute-Saint-Charles. Musique sur scène, animation culturelle de la Nation Wendat, jeux géants et activités pour toute la famille sont au programme. C'est ce qui complète cette édition. Au nom de toute l'équipe, bonne journée à l'antenne de CKIA 88.3 FM et CKIAFM.org.
Toute simplicité. Notre vie s'effrite et disparaît sous les coups des détails. Un homme honnête n'a guère besoin de compter plus avant que ses 10 doigts. Dans les situations extrêmes, il pourra ajouter ses 10 orteils et prendre tout le reste au prix de gros. Simplicité, simplicité, simplicité. Je dis, faites en sorte que vos affaires tiennent en deçà du chiffre de 2 ou 3, jamais 100, jamais 1000. Plutôt que de compter jusqu'au million, arrêtez-vous à la demi-douzaine et tenez vos registres sur l'ongle de votre pouce. Dans cette mer hachée de la vie civilisée, il y a tant de nuages, de tempêtes, de bandes, de sable et 1000 autres écueils encore à éviter qu'un homme ne peut faire autrement s'il ne veut pas sombrer pour ne jamais atteindre son bon port que de naviguer à l'estime. Et quel brillant calculateur cela doit être que l'homme qui y parvient. Simplifions, simplifions. Plutôt que 3 repas par jour, s'il faut vraiment manger, n'en prenons qu'un. Plutôt que 100 assiettes, n'en ayons que 5. Et réduisons pareillement toutes les autres choses. Notre vie est comme la Confédération germanique, faite de petits États aux frontières perpétuellement fluctuantes, de sorte que même un Allemand, en un instant donné, ne saurait bien vous dire quel en est le tracé. Notre nation elle-même, avec tous ses soi-disant progrès internes, qui, disons-le au passage, sont en réalité tous externes et superficiels, n'est, elle aussi, qu'une organisation bouffie, impraticable, encombrée de meubles, qui se prend les pieds dans ses propres pièges, ruinée par le luxe et les dépenses insensées, par manque de prévision et faute d'un but digne. Et il en va de même pour les millions de foyers que compte ce pays. Le seul remède, pour celle-là comme pour ceux-ci, gît en une stricte économie, une simplicité de vie rigoureuse et plus que spartiate, et des desseins élevés. On vit trop vite. Les hommes pensent qu'il est essentiel que la nation fasse du commerce et exporte de la glace et converse par le truchement d'un télégraphe et se déplace à 30 000 à l'heure. Et ils le pensent, sans le moindre doute, qu'ils aient ou non eux-mêmes besoin de tout ça.
Avec mon jardin de haricots, j'ai tout ce qu'il me faut pour faire du troc et me nourrir. J'ai de quoi pour passer l'hiver. J'ai du riz, de la mélasse, farine de seigle et de maïs, 22 sous pour le porc, 88 pour le froment. J'ai du sucre, du sel, des pommes séchées, un melon d'eau et des patates. En tout, j'en ai pour 8 dollars et 60 sous. Oh, 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 simplifier, 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 oh, simplifier, oh oui. Il m'arrive souvent d'aller pêcher aux rivières qui veulent bien me donner. Même la marmotte peut s'apprêter pour un souper. Et pour les ergoteurs invétérés, j'avoue qu'un bon dîner chez les amis est quelque chose qu'on ne peut pas refuser. Ce pays, ce que j'ai trouvé m'a pas surpris. Résignation et calme désespoir. Trop de malheur, trop de couteaux, trop d'objets, de fardeaux, trop de fiascos, de beaux habits, trop de travaux et de soucis, trop de détails, de mesquinerie, futilité et vanité, trop de magouilles, de façades, trop d'argent et trop d'enclos. Simplifier, simplifier, simplifier.
Bienvenue à toute simplicité. Aujourd'hui, j'ai commencé par vous lire un classique, un extrait classique, je dirais, de Walden, de Henri David Thoreau, qui parle de simplicité. C'est un peu le passage dans Walden qui nous parle le plus de simplicité volontaire, mais il y en a plusieurs autres. Mais en tout cas, celui-là, c'est un passage classique qui dit « simplifier, simplifier, simplifier ». Puis, ben, c'était logique de passer Richard Séguin avec sa chanson « Simplifier » qui a suivi. Aujourd'hui, je n'ai pas d'invité. Je vais vous parler du Philosophie magazine hors série qui vient de sortir, pourquoi les civilisations disparaissent. Et aussi, je vais faire un retour sur la soirée qu'on a eue, le cercle de discussion qu'on a eu cette semaine sur Aristote. Alors, avant ça, j'ai des annonces, des choses à vous dire, des choses qui ont eu lieu cette semaine. Alors, je reviens sur le retour des astronautes Artemis 2, vendredi dernier. Et ce qui est fascinant dans ça, je trouve, c'est quand les astronautes reviennent, ils partent de la Terre en astronautes, puis ils reviennent sur Terre en astronaute philosophe. D'ailleurs, il y avait une entrevue hier à Radio-Canada de Jeremy Hansen, puis il disait que quand il est passé de l'autre côté de la Lune, puis il voyait le vide sidéral, on prend conscience de l'immensité, le vide cosmique, et comment on est seul sur notre Terre. Et justement, ça fait réfléchir sur l'écologie, la beauté de la planète. D'ailleurs, dans les années 60, à la fin des années 60, début des années 70, quand les premiers astronautes sont allés vers la Lune, ce qu'ils disaient, c'est que en allant sur la Lune, c'est pas la Lune qu'on a découvert, c'est la Terre qui est spectaculaire vue de l'espace et qui impose le respect, qu'on réalise comment on est seul, c'est tout petit, et qu'il faut préserver la vie sur Terre. Et justement, on dit que le mouvement écologiste, l'écologie existait avant, mais on dirait que le mouvement écologiste a débuté avec l'image qu'on avait eue de la Terre à la fin des années 60, les premières photos de la Terre. Voilà, c'était beau de voir, j'ai suivi ça, l'amérissage de la petite capsule, ça me rappelait mon enfance. Moi, j'ai vu les vols d'Apollo, puis le retour des astronautes, c'est ça, c'était beau à voir de ce que c'est que les astronautes avaient à dire sur l'expérience de l'espace. Même on a eu une entrevue avec David Saint-Jacques samedi dernier. Et lui aussi disait que c'est la beauté de la Terre qui l'a frappé dans son voyage dans l'espace. On a eu aussi la semaine dernière, on pourrait dire jusqu'en cette semaine, parce que ça s'est terminé dimanche, le Salon du Livre. J'ai rencontré plusieurs auteurs intéressants. J'ai fait des rencontres intéressantes. J'ai parlé aussi avec Catherine Dorion, qui a sorti son livre. Je vais probablement vous en parler. Là, j'ai pas eu le temps de le lire, de le regarder. J'ai aussi été à l'événement avec Yann Martel. Lui aussi, je peux pas vous en parler. J'ai pas lu son livre. Il a fait une petite présentation au confessionnal du Capitole, très très belle salle d'ailleurs. Et ce qu'il disait, j'ai trouvé intéressant, entre autres, ça n'a pas rapport à son livre nécessairement, c'est qu'il parlait du salon du livre. Il disait que dans le monde anglophone, au Canada ou aux États-Unis, où lui, il évolue surtout, là, ça n'existe pas, des salons du livre comme ça. Puis ça l'impressionne beaucoup. Il est allé, il disait que c'était la deuxième ou troisième fois qu'il allait dans un salon du livre comme ça. Il était allé celui de Montréal, puis aussi un salon du livre à Paris. Alors, on dit que c'est un phénomène du monde francophone. Puis, moi, j'aime beaucoup le salon du livre. Je suis allé à chaque jour. Je trouve que c'est un événement au printemps qui permet de nous rassembler, d'échanger. C'est très intense, comme une mini-ville là, qui est construite pendant quelques jours. Et ben justement, je parlais avec Catherine Dorion, puis elle nous disait que les sociétés qui sont fragiles au régime totalitaire, c'est des sociétés où les gens sont atomisés. C'est important de se rencontrer. Puis le Salon du livre, c'est un très bel exemple de qu'est-ce qu'on peut faire pour justement recréer des liens, faire que les gens se rencontrent. Vraiment une belle activité. Ça me fait penser aussi, j'ai été voir la semaine dernière le film sur les jeunesses ouvrières catholiques, là, Voir agir, Penser voir agir, que je vous recommande. Je ne sais pas s'il est encore en salle, mais ça nous explique au Québec toute l'émergence du communautaire. On en a beaucoup parlé dernièrement. Nous, ici, Sequoia, on est une radio communautaire. Le communautaire est très développé au Québec, puis c'est pour une bonne part, entre autres, par ce mouvement-là des JOC dans les années 40, 50, 60, jusque même dans les années 70. Dans le film, on a en entrevue des personnes qui ont œuvré dans le mouvement, là. Des entrevues avec ces gens-là. Et c'est là qu'on voit l'importance du communautaire. Et ben c'est ça. Si vous avez la chance de le voir, ce film-là, je vous le recommande. Alors, comme je disais aussi, on a eu notre cercle de discussion sur Aristote cette semaine. C'est au Centre Frédéric Bach. La salle Michel Leclerc. Michel Leclerc, Michel Jourdan, la salle qui était renommée au nom du Michel Leclerc, qui œuvre pour les Amis de la Terre depuis des décennies. On lui a rendu hommage en renommant la salle. Et ça, franchement, c'était un succès. On avait une belle présentation par un diplômé de philosophie de l'Université de Puebla au Mexique, qui nous a fait un beau survol de Aristote, et le thème de sa présentation, c'est Aristote et l'écologie. Alors, je m'étendrai pas trop là-dessus, je vais en parler tantôt, là, d'Aristote. Il y a aussi, ce soir, il y a deux activités. Il y a, si vous voulez voir un spectacle d'humour politique, écologique, c'est aux Amis de la Terre, au Centre Frédéric Bach. On rediffuse un spectacle qui va avoir lieu à Montréal en même temps. Là, ça va être une rediffusion en direct, là, au Club Soda de Montréal. C'est gratuit, c'est au Centre Frédéric Bach. Et si vous voulez rester chez vous et ne pas sortir, je vais vous en parler aussi, c'est dans mes lectures du devoir. Il y a un documentaire, « Subir ou choisir la transition économique ». C'est à 21h ce soir sur ICI Télé. Je vais vous en parler dans quelques instants. Et le titre du documentaire, « Subir ou choisir ». Puis dans les autres événements, bien, mercredi prochain, c'est le jour de la Terre. Mercredi le 22 avril. Je n'ai pas vu d'activité annoncée. Faudrait peut-être aller vérifier sur le site des Amis de la Terre. Pour l'instant, j'ai pas remarqué là, qu'il y avait des annonces ou des activités spéciales, mais il y a toujours des choses qui se passent le jour de la Terre, le 22 avril. Alors, c'est mercredi prochain. Alors, dans mes lectures, j'ai pas beaucoup retenu beaucoup de choses dans trois textes dans le devoir. Alors, il y avait dans le devoir d'aujourd'hui, vendredi 17 avril. Le Canada accuse un sérieux retard dans ses engagements climatiques. Le plus récent bilan des gaz à effet de serre confirme la hausse du poids de l'industrie des énergies fossiles au pays. Pendant que le gouvernement Carney mise plus que jamais sur la croissance de l'industrie des énergies fossiles, le plus récent bilan national des émissions de gaz à effet de serre démontre que le Canada accuse un sérieux retard dans ses engagements climatiques et que le secteur pétrolier et gazier augmente ses émissions. Les données officielles indiquent que les émissions de GES atteignaient 685 millions de tonnes en 2024, soit un recul de seulement 10 % par rapport à leur niveau de 2005. Or, la cible officielle du Canada pour 2030 impliquerait une baisse de 40 à 45 % des émissions par rapport à leur niveau de 2005, ce qui signifierait de ramener le bilan national quelque part entre 417 et 455 millions de tonnes, alors qu'on est actuellement à 685. Sans surprise, l'industrie des énergies représente un poids lourd du bilan des émissions de GES qui alimente la crise climatique mondiale. En 2024, ce seul secteur économique a représenté plus de 30 % de toutes les émissions du pays, devançant le secteur des transports, 22 % lui-même alimenté essentiellement par les énergies fossiles. Il y avait dans le Devoir de mercredi un texte d'Alexandre Shields, la destruction d'habitats des caribous de Charlevoix prévue cet été. Le gouvernement pourrait autoriser le déboisement pour le projet éolien des Neiges avant de recevoir le plan de compensation des promoteurs. Après avoir décidé d'ignorer l'avis de ses experts en autorisant un projet éolien nuisible aux caribous de Charlevoix, le gouvernement caquiste doit approuver sous peu la destruction d'habitats du cervidé au seuil de l'extinction. L'autorisation devrait être accordée pour permettre le déboisement cet été, soit avant le dépôt du plan d'action, censé assurer la compensation des pertes, une avenue que les scientifiques jugent de toute façon impossible. Avant de quitter son poste de premier ministre, a annoncé le début des travaux du projet éolien des Neiges, dont une des trois phases est cependant toujours en évaluation environnementale. En compagnie des promoteurs Hydro-Québec, Boralex et Énergie, on a présenté ce chantier prévu sur le territoire de la Seigneurie de Beaupré. Alors, c'est à suivre, là. C'est dommage. Je ne sais pas s'il va y avoir, j'imagine, des réactions des groupes environnementaux ou des Premières Nations. Le caribou, il n'en reste plus beaucoup, là, des habitats pour des caribous. Et finalement, ben, comme je vous disais, il y a un texte dans le Devoir de jeudi vers un Québec de la post-croissance, subir ou choisir, c'est le documentaire dont je vous parlais, subir ou choisir, export, les voies que la province pourra emprunter pour rééquilibrer son économie et présente 7 clés pour s'adapter aux défis sociaux et environnementaux contemporains. Le fonctionnement actuel de l'économie n'est pas soutenable et pas seulement pour des raisons environnementales, mais qu'on se rassure, d'autres façons de faire existent, dit un documentaire. Le Québec pourrait même servir de modèle à plus d'un égard. La liste des maux qui affligent notre monde et dont le système économique semble responsable au moins en partie est longue. On pourrait citer entre autres le climat qui se détraque, l'illusion qu'on pourra toujours produire plus de biens dans un monde dont les ressources ne sont pas infinies, le creusement des inégalités de richesse, le coût de la vie qui s'emballe, la déconnexion entre la finance et l'économie réelle ou ces brillantes carrières professionnelles qui laissent malgré tout une impression de mal-être. Même si l'on n'avait affaire qu'au bouleversement écologique, c'est sûr que la société, dans 20 ou dans 30 ans, elle va être profondément différente. La question qui nous reste, c'est est-ce que cette transition-là va être entièrement subie ou au moins partiellement choisie, dit une experte interviewée par le réalisateur Mathieu Vachon et la journaliste Diane Bédard, qui leur a donné l'idée du titre de leur nouveau documentaire « Subir ou choisir, la transition économique ». Alors, ce sera présenté ce soir à 21h sur Ici Télé. Et c'est le genre de film que j'aime bien. Ça me fait penser au film « Demain ». On présente la réalité qui n'est pas toujours rose, mais on s'est accompagné de choses positives, de d'espoir, appelons ça comme ça. Il y a beaucoup de choses positives qui se font, des initiatives qui peuvent donner de l'espoir. D'ailleurs, il y a un livre qui avait sorti aussi, « Demain, le Québec ». Dans ce livre-là, c'était un livre produit, je pense, par Greenpeace Québec, je pense. Et plein d'initiatives. On nous disait qu'il y avait beaucoup, beaucoup d'initiatives au Québec qui vont dans le bon sens, disons. Et dernièrement, j'avais vu un documentaire qui était trop pessimiste. C'est important d'avoir un équilibre là-dedans pour qu'on réalise qu'on peut faire des choses, qu'on n'est pas sans ressources, sans moyens. Je vais en reparler, là, je vais l'écouter, c'est certain, je vais vous en reparler la semaine prochaine. Alors on prend une pause musicale, puis au retour, je vais vous parler du hors-série de Philosophie Magazine, « Les civilisations qui disparaissent ».
Thank you.
Alors, c'était un extrait des planètes de Holst, c'est la planète Vénus. Petit clin d'œil pour nos astronautes. Alors, comme je vous disais, il y a un nouveau Philosophy Magazine hors série qui vient tout juste là, d'arriver en kiosque. Pourquoi les civilisations disparaissent? Et c'est comme un retour sur ce qu'on a appelé le mouvement, la collapsologie ou le mouvement d'effondrement. Il y avait eu plusieurs livres qui sont sortis là, disons dans les 5-6 dernières années. Puis il y a comme un bilan qui est fait, puis c'est très bien fait. C'est une réflexion sur comment les civilisations justement disparaissent. Pourquoi s'interroger ici maintenant sur la disparition des civilisations? En première analyse, la réponse va de soi, parce qu'on a la trouille et il y a de quoi. Réchauffement climatique, retour de la guerre en Europe, résurgence des impérialismes, haine en ligne, masculinisme triomphant, montée des extrêmes, ajouter le sentiment avec l'IA d'une glissade accélérée sur un toboggan bordé par le vide et plongé dans le brouillard. Nous sentons bien que le baromètre vire au gros temps et que le monde de demain ne sera pas la continuation de celui d'aujourd'hui. D'où l'intérêt de demander ce qu'ont fait nos prédécesseurs romains, aztèques, chinois ou amérindiens avant de disparaître dans les pages de nos manuels d'histoire. Quelles leçons tirées de leur déclin? Sur quels écueils se sont-ils fracassés? En quoi leur expérience peut-elle nous être utile? Ces questions ne sont pas neuves, mais elles ont rajeuni depuis une vingtaine d'années. Alors, il y a plusieurs textes, là. Comme je vous dis, c'est très bien fait. Ça commence avec un texte de Paul Valéry en 1919. Paul Valéry accepte d'écrire deux lettres pour une revue londonienne, le 11 avril et le 2 mai, dont nous publions la première, célèbre pour son incipit. L'auteur s'y demande comment tant de sciences et de savoirs ont pu mener à la destruction, à la guerre, et surtout quelle Europe, quelle idée de l'humain peuvent surgir de la crise. Alors, ça avait beaucoup bouleversé les Européens. La Première Guerre mondiale, ça avait été un massacre. On ne pensait pas qu'on pouvait tomber si bas que ça. Hein. Et d'ailleurs, il y a un livre très beau là-dessus, Stéphane Zweig, qui écrit sur le 20e siècle. Je ne me souviens plus du titre, là, mais ça parle de l'Europe, en tout cas. Puis il explique très bien qu'au début du 20e siècle, il y avait comme un optimisme. On voyait le progrès, il y avait le mythe du progrès. On voyait que l'humanité allait en évoluant, qu'on allait à l'avenir mener des vies agréables, sans souci, avec tous les progrès que la science nous amenait. Et puis, voilà, il y a eu la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Et ça l'a beaucoup fait réfléchir les Européens. Alors, ici, il y a un texte là-dessus. « Nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. Nous avions entendu parler des mondes disparus tout entiers, d'empires coulés à pic avec tous leurs hommes et tous leurs engins, descendus au fond inexplorables des siècles avec leurs dieux et leurs lois, leurs académies et leurs sciences pures y appliquées, avec leur grammaire, leur dictionnaire, leur classique, leur romantique et leur symboliste, leur critique et les critiques de leur critique. Nous savions bien que toute la terre apparente est faite de cendres et que la cendre signifie quelque chose. Nous apercevions, à travers l'épaisseur de l'histoire, les fantômes d'immenses navires qui furent chargés de richesses et d'esprit. Nous ne pouvions pas les compter, mais c'est un naufrage. Après tout, n'était pas notre affaire. Mais voilà, on a eu le... Alors, c'est un long texte là, de M. Valéry. Ensuite, on nous présente une page avec tous les empires qui sont disparus, en quelle année qu'ils ont émergé, puis en quelle année ils ont disparu. C'est pas nouveau. Alors, on a une chronologie de tous les empires qui ont disparu. Par exemple, l'Empire mongol, après son apogée en 1279 sous Kublai Khan, c'est le plus vaste empire contigu de l'histoire, s'étendant de la Corée à la Hongrie. Mais en 1294, avec la mort de Kublai, l'empire se fragmente en quatre entités autonomes et souvent rivales. Et l'empire s'est effondré, l'empire mongol. Et il y a un texte, on parle aussi de l'effondrement, une histoire climatique. Un jour, peut-être des extraterrestres curieux poseront à propos de la Terre la même question que celle posée par les archéologues et les climatologues à propos de l'île de Pâques, suicide écologique ou étonnante résilience d'un monde qui a su s'adapter. À moins que, dans une version plus optimiste, il reste baba devant l'inventivité des terriens du 21e siècle pour résoudre une crise d'une ampleur jusque-là inconnue. Il faut rêver. Alors, on a plusieurs extraits de penseurs du drame écologique. Puis, on a un texte un peu plus loin c'est un entretien avec Pablo Servigne et Raphaël Stephens qui avaient écrit un livre là, qui s'appelait, « Comment tout peut s'effondrer en 2015 ». Alors, on dit, en 2015, vous avez écrit « Comment tout peut s'effondrer » qui a fait sensation en France et participé d'une prise de conscience du côté global et systémique des catastrophes et donc de la fragilité de notre monde. 10 ans plus tard, qu'est-ce qui a changé? Alors, Pablo Servigne, un des auteurs du livre « Comment tout peut s'effondrer », nous dit « Le monde d'abord. Il y a 10 ans, on entrevoyait un futur avec des risques de guerre, de pandémie, d'emballement climatique, de crise énergétique qui nous semblait pouvoir conduire à un effondrement. Aujourd'hui, on y est. Le futur est entré dans le présent. Certains risques, certaines trajectoires dont nous analysions les signaux faibles sont devenues réalité. Mais la collapsologie, ça vient de collapse en anglais, qui veut dire effondrement. C'est le terme qu'ils ont utilisé, la science de l'effondrement. Mais la collapsologie aussi a changé. La question de l'effondrement a atteint un pic dans le débat public autour de 2019 avec l'émergence des marches pour le climat, des gilets jaunes, d'Extinction Rebellion, ensuite le COVID et la guerre en Ukraine ont concrètement montré ce que sont des chocs systémiques. Ils ont été durs, mais le système dans son ensemble ne s'est pas effondré. Un monde un peu plus cabossé a repris son cours. Paradoxalement, il y a eu en même temps un backlash, une forme de reflux contre toute pensée collapsologique et plus largement écologique. Or, la question du collapse est toujours d'actualité parce que les problèmes structurels de nos systèmes n'ont pas disparu. Bien au contraire. Même si le débat sur l'effondrement a été étouffé en France, les recherches ont continué à avancer, au niveau international en particulier, dans le monde anglophone, montrant qu'en 10 ans, la manière d'appréhender l'étude de ces problèmes systémiques a aussi évolué. Cette réflexion-là, elle se poursuit toujours. On a même des textes un peu plus loin dans le numéro qui remettent en question le concept de l'effondrement. C'est un débat, c'est une réflexion. Aussi, on a un peu plus loin une entrevue avec Jared Diamond. Jared Diamond, c'est lui qui avait écrit le livre « Collapse » en 2005, qui avait publié son livre, il y a fait 20 ans environ. Et de là est venu ce qu'on appelle aujourd'hui la collapsologie, la science de l'effondrement. Alors, il y a une entrevue avec Jared Diamond. « Effondrement » 20 ans après, entretien avec Jared Diamond. Alors, on lui demande comment définir l'effondrement d'une société. L'effondrement d'une société signifie une diminution drastique sur une longue période du nombre d'habitants, d'une population, de son niveau de vie ou de son organisation. Une chute de 20% du marché boursier durant 2 ans attire beaucoup d'attention, mais cela ne constitue pas un effondrement de société. C'est une simple bagatelle en comparaison de ce qui est arrivé, par exemple, au Groenland norrois après l'année 1410, lorsque tous ses habitants ont fini par mourir et disparaître. Alors, lui, il avait analysé ça, il avait donné plusieurs exemples de sociétés en effondrement. Et d'ailleurs, il avait écrit un texte sur, un chapitre sur l'effondrement de la société de l'île de Pâques. Puis, ça aussi, ça a été remis en question. En tout cas, il y a là-dessus aussi un débat. Puis, on présente un texte un peu plus loin sur justement l'île de Pâques, le mystérieux effondrement de l'île de Pâques. Alors, on dit un peu plus loin, là, on a une critique de l'hypothèse de Jared Diamond, ce grand récit de l'aveuglement humain qui a conduit à un épuisement autodestructeur des ressources, a largement dominé la recherche sur l'effondrement de la société Pasquan de l'île de Pâques. Il est pourtant remis en cause, du moins nuancé ces dernières années. L'un des principaux arguments avancés tient à la surestimation de la population de l'île à son apogée. Diamond évoque 15 000. Or, une étude indique que seul 0,76 km² sur les 160 km² de l'île aurait été cultivé. Impossible dans ces conditions, même en ajoutant l'apport alimentaire des produits de la mer, d'imaginer une population aussi nombreuse. La démographie pasquane aurait en fait culminé au mieux autour de 4 000 habitants et serait restée stable jusqu'à l'arrivée des Européens. Contrairement au récit de l'écocide, la population présente à l'arrivée des Européens n'était pas les vestiges de la société de Rapa Nui, mais probablement la société à son apogée, vivant à des niveaux durables sur l'île. Commentait l'anthropologue Dylan Davis dans The Guardian. Si ses recherches récentes incitent à changer de regard sur la disparition de la société, Pasquan, en abandonnant le récit séduisant à l'heure de la crise écologique, de l'autodestruction écocidaire, difficile de dire avec certitude ce qui s'est passé sur ce petit îlot perdu au milieu du Pacifique. L'île de Pâques garde son mystère. Alors, c'est toujours question à débat. On ne peut pas, disons, voir l'effondrement comme inévitable. Mais c'est bon de se questionner, de réfléchir. Puis c'est ce que fait le numéro, là, pour ceux que ça intéresse, là, le dernier hors-série Philosophie Magazine, « Pourquoi les civilisations disparaissent ». Alors, je vous en ai présenté quelques extraits, un petit survol. Alors, on prend une autre pause musicale. Pour retour, je vais faire un petit retour là, sur... l'activité sur Aristote, en fait.
Le temps sacré de l'autochtone Ce n'est pas un cadran qui sonne. Il est des lunes et des saisons. Sans une fortune à l'horizon. C'est tout le temps d'une culture. D'une cueillette dans la nature. Parfois celui d'un long silence. Face à l'homme blanc qui est sans patience. Aïe, aïe, aïe. Et moins il donne. Le conquérant qui réquisitionne. Sciences ancestrales et traditions. Les traites de superstition. Il veut niveler l'autre culture. À force de coups et de blessures. L'Indien le met sous surveillance. Cet homme blanc qui est sans patience. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. Vient le moment où le glas sonne et où le tonnerre résonne. Pour les terres en spéculation, les mers en surexploitation, le capital en démesure, se garde la planète en pâture. L'Indien fait preuve de résistance devant l'homme blanc qui est sans patience. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie de la nuit des temps. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, 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 hi. De la nuit des temps. Tout ce que j'entends, c'est une voix qui dit respecte la vie de la nuit des temps. Tout ce que j'entends, il y a plus d'une voix qui dit respecte la vie. Respecte la vie. Respecte la vie. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi. Hi, hi, hi.
Alors, c'était Jean Marcorel et la pièce « Respecte la vie » de son album « Jean Lamoureur ». Alors, pour terminer l'émission, je vais vous parler un peu d'Aristote. Aristote, c'est... nous, à l'émission, en toute simplicité, on parle beaucoup des philosophes de l'Antiquité parce que dans l'Antiquité, la philosophie, c'est une façon de vivre. On pourrait dire c'est la simplicité volontaire, ça serait un mode de vie philosophique. Puis dans l'Antiquité, les gens allaient étudier la philosophie pour apprendre à être heureux, à bien vivre. Puis Aristote, il n'était pas différent des autres philosophes de l'Antiquité, sauf qu'il est plus connu pour son corpus théorique. Là, il y a beaucoup d'écrits qui sont restés d'Aristote. C'est, entre autres, on le connaît, la logique d'Aristote, comment bien penser. Et d'ailleurs, c'est quand même important de nos jours de développer la pensée critique, la recherche du vrai. Pour lui, Aristote, puis connaître la vie, il a écrit sur les sciences naturelles. C'est un des premiers à avoir développé un système pour classifier la vie, les formes de vie, étudier les sciences de la nature. Et ça, on le connaît beaucoup pour ce côté-là, un peu plus théorique que les autres l'étaient peut-être un peu moins. Mais ça n'empêche pas que aussi Aristote a écrit sur le bonheur. Entre autres, il disait que le bonheur, on peut le trouver de trois façons. Il dit soit par la richesse, soit par la vie vertueuse ou soit par la vie contemplative. Puis il disait que la richesse, fallait éviter ça parce que ça menait à la crématistique qui n'est pas une bonne chose. Il a parlé des vertus. Puis ça aussi, Jacques Sénécal, notre invité, notre collaborateur depuis toujours qui nous a quittés là, cet automne, il m'avait laissé un texte sur les vertus. C'est que Aristote disait que la vertu, c'est le milieu entre deux vices. Alors, il a écrit sur la vertu, comme je vous disais, qui était un moyen d'être heureux. Puis il disait, par exemple, la vertu du courage, le juste milieu, ben c'était un équilibre entre, d'un côté, la témérité, qui est un excès de prudence, on peut dire, c'est-à-dire un manque de prudence, un excès, un défaut, et la lâcheté. Alors, le courage est entre les deux. Ou la tempérance, qui est le défaut, en excès, c'est soit d'un côté la prostitution ou l'insensibilité. L'amitié, bien, c'est entre la flatterie et la haine. En tout cas, j'en ai plusieurs comme ça que je pourrais vous présenter dans les semaines qui viennent là, avec le texte que Jacques Sénécal nous avait laissé. Et aussi, Aristote avait écrit sur l'éthique. On le connaît pour, entre autres, l'éthique à Nicomaque et l'éthique à Eudème. Nicomaque, c'était le nom de son père et il a nommé son fils aussi Nicomaque. Alors, c'est comme s'il avait écrit à son fils. Alors, petit résumé de la vie d'Aristote. Il est né en 384 avant notre ère. Et dans la cité grecque de Stagir, du nom de son surnom Stagirite, au nord-est de la péninsule, la Chalcidique. Et Aristote, il était orphelin assez tôt. Il a été éduqué par celui qui devient son gardien à la mort de ses parents, un certain Proxène d'Atarnée, dont, on dit qu'on n'en sait pas beaucoup sur lui. Puis à 17 ans, Aristote est débarqué à Athènes, puis il est allé étudier à l'école de Platon, à l'Académie de Platon. Puis c'est comme ça que sa carrière de philosophe a commencé. Et si je reviens un peu, il ne nous reste pas beaucoup de temps, sur la présentation qu'on a eue cette semaine. Et M. Castillo nous a parlé de la rhétorique d'Aristote, qui il dit la rhétorique n'est pas, comme on le laisserait entendre, l'usage populaire du mot rhétorique, une œuvre qui enseigne au lecteur comment convaincre l'autre d'un argument par la tromperie, la séduction ou l'autorité. En fait, cette œuvre traite de ce dont il est important de discuter, la manière d'en discuter. C'est pourquoi il classe les discussions en deux catégories, à technoï et en technoï. Et de là vient l'éthique d'Aristote, de vivre en harmonie, en respectant la vie, comme la chanson que je viens de vous passer. Alors, voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Alors, je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit la semaine prochaine.
88.3 au cœur de la ville.
T'écoutes Québec Réveil?
T'aimes ça, donner ton opinion?
Ça donne bien. On veut savoir ce que tu penses de l'émission.
D'ici le 30 avril, rends-toi au ckiafm.org
et clique sur la bannière pour remplir un court sondage.
Parce qu'on veut que Québec Réveil, ce soit ton émission matinale comme tu l'aimes.
Visite ckiafm.org pour les détails.
Salut, c'est François Laplace, boutique gourmande. Tu veux faire une différence dans le quartier? Ben nous, on embarque avec toi. Comment? Si t'achètes une carte cadeau de 20$, nous, on va la bonifier en ajoutant 5 cafés. Comme ça, tu peux l'offrir à quelqu'un de la rue et vraiment faire une différence, et ça, dans l'intimité. Passe nous voir au coin du pont Saint-Joseph, à deux pas de Sequoia. Voilà!
Coupure budgétaire, mise à pied, réduction de services, travail précaire, insécurité. Comment survivre à l'austérité?
Quel genre de société voulons-nous pour nos enfants, nos personnes âgées, les gens dans le besoin et pour...